Bonsoir et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission « Et si on s'écoutait ?». Nous sommes le mercredi 25 mars 2026, nous sommes en direct de 20h à 21h et le replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site internet de Radio Galère. Dans cette émission, nous recevons des invités qui, par leur parcours de vie ou leur engagement, explorent ce que signifie vraiment « écouter ». Qu'il s'agisse d'une expérience intime ou d'une action tournée vers les autres, chaque voix ici éclaire une facette de cette qualité si précieuse et pourtant si rare, l'écoute. Des scènes culturelles au terrain de sport, en passant par des cercles associatifs ou les ateliers artistiques, nous recevons des invités pour qui l'écoute est bien plus qu'une posture, c'est une boussole, un moteur, une manière d'habiter le monde. À travers leurs récits, nous cherchons à comprendre comment se crée le dialogue, comment on construit le lien, comment on cohabite dans une société traversée par des désirs multiples. Car s'écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est accueillir, créer de l'espace, tisser du commun, et parfois cet espace naît d'une chanson, d'un geste, d'un silence, d'un regard. Alors prenons ce temps, et si pour une fois, on s'écoutait vraiment. Je suis Marion Milsan et avec Chloé Lenders, nous animons cette émission une fois par mois avec Sidi en régie. Coucou Chloé, bonsoir. Coucou Sidi.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Bien, avec ce vent, ce mistral.
Bien.
Je suis contente de vous voir sourire tous les deux. Trop bien. Je vis bien aussi. Ce soir, pour notre première émission, pour notre émission du mois de mars, nous tendons le micro à Bruno Gelsemino. Je l'ai bien dit ?
Parfait.
Yes ! Un Marseillais utopiste, amoureux de son territoire et multi-engagé auprès de projets à impact positif, notamment dans le collectif Marseille Hospitalité qu'il va nous présenter ce soir.
Tout à fait.
Bonsoir Bruno, comment ça va ?
Ben ça va bien, j'ai juste les yeux qui piquent un peu avec les platanes, on en parlait juste avant, mais ça va bien se passer.
Oui, ça va bien se passer. Oui, nous aussi ça va bien se passer, Chloé.
Oui, les micros sont là, on est...
Oui, d'ailleurs, c'est tout neuf, hein, Sidi.
Oui, nouveau micro, nouveau casque.
Des beaux micros, des beaux casques, merci beaucoup.
On passe à vous. Hein.
Merci.
Et oui, donc pour introduire cette émission, on a l'habitude, Bruno, de poser cette question à nos invités, en fait, de savoir ce que ça évoque pour vous et donc pour toi ce soir, l'écoute, puisque c'est le titre de notre émission. Quel est ton rapport à cette écoute ? Voilà, comment on a envie d'introduire ce soir l'émission ?
Bah déjà, Marion l'a hyper bien expliqué de manière très poétique, donc ça va être dur de raconter aussi bien, mais l'écoute, selon moi, c'est vraiment faire preuve d'humilité. Puisque bah, c'est se mettre un peu en retrait et aller vers l'autre et surtout arrêter de parler. Après, alors, j'ai un exemple qui a très mal vieilli, mais moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans le documentaire de Michael Moore, Bowling for Columbine, quand il a donné les questions de... on accuse les jeux vidéo et la musique métal d'être à l'origine de la tuerie. Et du coup, il convoque Marilyn Manson et lui pose la question « Qu'est-ce que vous diriez à la jeunesse américaine ?» Et Marilyn Manson répond « Moi, je n'ai rien à leur dire. Moi, je suis là pour les écouter ce qu'ils ont à dire. » Et c'est un vieux souvenir qui a, comme je vous le dis, mal vieilli. Mais en tout cas, moi, ça m'avait marqué parce que c'est important de se mettre à la place des autres, de faire preuve d'empathie pour faire société. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler ce soir.
Oui, c'est au cœur du projet que tu vas nous présenter, du collectif, effectivement.
Je fais une rapide présentation, mais j'en dis pas trop. Et en même temps, il y a tellement de choses à dire qu'à mon avis, une heure ne nous suffira pas. Alors, Marseille Hospitalité, tu me dis Bruno si j'ai tout correct. C'est un collectif citoyen et transversal qui cherche à repenser l'accueil dans toute la ville de Marseille.
Oui.
Ok, cool, pour ça, j'ai bon. Ça rassemble des habitants, des habitantes, des associations, des acteurs économiques, des chercheurs et institutions locales. Jusqu'ici, tout va bien ?
C'est ça. L'idée, c'est de représenter la ville telle qu'elle est. Donc, plus on a de gens différents, plus on va représenter la ville. Donc, c'est aussi ouvert. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est que nous, on accueille des gens. On ne peut pas s'appeler Marseille Hospitalité sans même soi-même hospitalier. Et donc, on est ouvert à toutes les bonnes volontés.
Pas mieux dit que moi. Donc du coup, l'ambition de l'asso, elle est assez forte, c'est faire de l'hospitalité un véritable projet politique pour Marseille et pas seulement une somme d'initiatives dispersées, car votre constat, c'est que Marseille accueille énormément de monde, mais pas toujours de manière égale ou digne. Donc l'association agit à la fois sur le terrain en répondant à des situations d'urgence et sur le plan politique en questionnant nos manières d'accueillir et de cohabiter. Et ça propose donc une autre vision de la ville, une ville où l'hospitalité devient une responsabilité collective.
Tout à fait.
Voilà ma petite intro.
Tu parles de dignité, moi ça m'a fait penser tout de suite à ça en découvrant le collectif, l'hospitalité. Il y a la dignité aussi qui vient tout de suite et c'est ça aussi dont on a envie de parler aussi, je pense, ce soir. On ne l'a pas assez abordé ou pas encore, mais c'était l'occasion aussi pour nous d'en parler. On a aussi l'habitude avec nos invités en début d'émission de commencer par la personne qui est au micro avec nous, qui représente le projet, le collectif, de savoir un petit peu d'où tu viens, ton parcours, si tu as envie de nous partager de la manière dont tu le souhaites. Qui tu es, Bruno? Est-ce que tu as envie de dire de toi ou en tout cas ton parcours?
Top chrono, c'est parti.
Alors, qui je suis? Moi, je suis Marseillais, donc ça, je pense que j'aime bien le revendiquer. Mais qui a étudié à Nancy et ensuite qui a travaillé à Paris. Donc, en gros, pendant 15 ans, je n'ai pas été à Marseille, mais je suis revenu avec plein de choses intéressantes. Donc, moi, je suis revenu en 2019. Et moi, je suis un habitant des quartiers nord. Donc, je vis à Saint-Antoine. Dans le 15e arrondissement, c'est le quartier où j'ai grandi. Et donc j'ai un fort attachement à ce territoire, ça on pourra en reparler. Et donc moi j'ai plusieurs casquettes, celui d'entrepreneur avec l'agence Atelier BG que j'ai créée et qui propose de la communication pour les, grosso modo pour les entreprises. Et la particularité de cette... de ma société, c'est qu'elle dédie 20% de son temps à des projets de mécénat. Donc en gros, moi, je donne de mon temps pour des projets. Et ces projets, c'est principalement Marseille Hospitalité et l'Hôtel du Nord. Donc ça, je pourrais vous expliquer un peu ces deux structures. Climax, qui est un média spécialisé sur le climat avec un parti pris très particulier, très pop.
Et qui est un très bel objet, d'ailleurs tu nous l'as amené, il faudra que tu nous dises peut-être au cours de l'émission, en fin d'émission, comment on peut le retrouver, l'acheter, le découvrir, parce qu'il est incroyable.
On mettra en vidéo, parce que c'est vraiment très beau en effet.
Oui,
tout à fait, ça, c'est vraiment un bel objet pour lequel on prend beaucoup de temps et de soins pour le réaliser. Et après voilà, j'ai d'autres engagements, par exemple il y a Social Déclic, qui est un collectif de freelance engagés, Marcea, qui est qui fédère les acteurs économiques du nord de Marseille. Après, je donne des coups de main, donc le So Good Festival, la Claque Podcast Party. Voilà, il y a plein de choses.
Mais en fait, on s'est croisés plusieurs fois.
En fait, on s'est croisés mille fois.
La Claque, on y était aussi avec Marion l'année dernière.
L'an dernier, tous les supports de com que vous voyez en live, c'était Atelier BG qui les a faites gracieusement pour le festival.
Très réussi.
Et j'avais animé une table ronde. Alors, pour la petite histoire, c'était Coopérer ou Périr. Donc, on avait réuni des grands, des petits studios, Cop Media aussi. Mais sauf que, contrairement à ici où la technique est parfaite, y a un micro qui n'était pas allumé. Donc, on n'a jamais pu sortir.
Oh,
voilà, je vous en parle, mais ça me fait. J'ai une blessure profonde.
Oh non, franchement, je comprends. Combien de temps de.
Une heure. Oh, une heure de débat.
Ah, oui. Et on n'entendait rien du tout.
Il manquait un micro. Donc, en fait, il y avait quatre intervenants. Bref, on ne va pas parler de ça ce
non,
soir.
Okay.
Ce soir, ça sera bien enregistré en tout cas.
Et
ça
fait en sorte qu'on soit tous connectés. C'est bien, merci. Merci beaucoup, beaucoup.
Oui, donc plusieurs projets, tu es vraiment investi de manière bénévole beaucoup. Après, tu as effectivement ta boîte, mais c'est vrai que le bénévolat, ça fait quand même partie de ta vie, de donner du temps pour les autres.
Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est. On parle d'écoute, moi j'aime bien aussi aller vers. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse aux gens, à leur parcours et par extension, le vivre ensemble, ça fait partie de mes préoccupations. Pardon. Donc voilà, et puis c'est vrai que moi, j'ai plus un parti pris qui est celui du terrain et de l'action. Parce qu'en fait, voilà, on a toutes et tous des engagements divers et variés. Mais on a tous un temps limité aussi. Et c'est vrai que moi, je me sens utile quand je suis vraiment en train de faire sur le terrain. Et en revanche, c'est vrai que moi, je suis beaucoup moins manif ou signer des pétitions, ce genre de choses. Tout ça pour dire que c'est ça qui m'intéresse d'être...
Du coup, c'est beaucoup un rapport à l'écoute des autres. Comment tu arrives à gérer aussi le rapport... à ton écoute, à toi, l'équilibre vie pro, vie perso, avec tous ces engagements, est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que c'est
facile? Est-ce que tu apprends encore, en fait, finalement?
Oui, non, c'est vrai que ça, c'est un... C'est un exercice qui se termine jamais. Mais en effet, oui, le fait d'avoir une entreprise, un enfant de 3 ans, ma compagne enceinte, j'ai un grand jardin aussi, sachez-le.
Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dedans.
Et voilà, donc tout ça, ça veut dire qu'il y a du travail. Et puis, mais après, ouais, en fait, il faut savoir s'écouter, ça, tu as raison, dans le sens où... on peut être très vite pris dans un engrenage et pas forcément faire attention à par exemple, sa santé, ce genre de choses. Donc, en effet, c'est quelque chose d'important, mais que souvent, je laisse de côté.
Peut-être tu y reviens de temps en temps,
oui.
Quand ton corps peut-être te le demande ou quand la vie juste met face à peut-être qu'il est temps de faire une pause.
C'est ça.
De ralentir.
Je connais ça. donc du coup, tu es revenu à Marseille et donc en t'engageant dans plusieurs projets aussi associatifs, parce que j'ai l'impression qu'à Paris aussi, tu étais quand même...
Beaucoup moins engagé. Bizarrement. Okay. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, on est dans... Paris, moi j'ai vraiment cette image de machine à laver donc qui te prend, oui. Qui te secoue et qui te met la tête un peu sous l'eau et... Et c'était une période où qui était plus centrée sur le travail, peut-être la fête aussi. C'est une autre période de ma vie. Là où Marseille, c'est vraiment quelque chose qui est hyper ancré en moi, qui est dans mes tripes quelque part. Donc j'avais envie de rendre aussi ce que la ville m'a apporté à ma petite échelle.
C'est vrai qu'à travers tous les projets qu'on reçoit, toutes les personnes qu'on reçoit à l'antenne, Marion, Marseille fait beaucoup. Marseille crée quelque chose, un déclic ou un écho fort pour les personnes qu'on reçoit à la radio, c'est assez intéressant. Elle crée quelque chose en nous.
Oui, souvent on m'a dit Marseille c'est un peu la ville des possibles. Est-ce que c'est nous qui la considérons comme, allez, je fais aussi et je rends possible peut-être que comment prendre le temps des choses en fait, prendre le temps des choses et voir sa vie autrement peut-être. Peut-être, en effet, cette machine à laver parisienne, je peux comprendre, en effet, que ce soit tellement... c'est vaste, en fait, il y a aussi beaucoup d'initiatives.
Parce qu'elle est tout aussi dense que Paris, finalement, cette ville, d'une autre manière, mais on l'habite différemment.
Ouais, alors, en effet, elle est tout aussi dense, mais elle est très différente aussi, dans le sens où, par exemple, vous vous amusez à prendre la carte de Paris, la carte de Lyon, vous les mettez ensemble, ça reste plus petit que Marseille. Quand bien même Marseille a 3 fois moins d'habitants, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'espaces à Marseille qui sont un peu inoccupés, en tout cas qui ne correspondent pas à des zones d'habitation. Il y a beaucoup de friches, beaucoup de nature à Marseille. Ça c'est, alors que le traitement médiatique, ce n'est pas du tout ce qu'il montre. On est sur une image vraiment de béton, de cité et tout ce qui va avec. Et après, moi, je rajouterais aussi que... si on prend Gaudin et Defer, les deux mandats font 50 années. Et ces 50 années durant lesquelles, ça, il y a plein d'observateurs de la vie marseillaise qui le disent, c'était des hommes politiques très forts pour se faire élire. En revanche, une fois qu'ils étaient élus, pas forcément penser la ville, avoir une vision vraiment urbaniste, par exemple, de la ville. Et du coup, on en paye le prix parce que quand on regarde les transports aujourd'hui... l'état du foncier, etc. On a énormément de retard. Et donc, c'est pour ça aussi que les Marseillais et les Marseillaises sont très engagés. À Marseille, on a un travail sur 5 qui est lié de près ou de loin à l'économie sociale et solidaire.
C'est énorme.
C'est un cas unique en France, dans les grandes métropoles. Et ça, c'est la preuve qu'en fait, c'est qu'on a dû s'auto-organiser pour bien vivre dans notre ville. Et aujourd'hui, je pense que si on est là ensemble face à face, c'est parce qu'il y a eu tous ces élans, tout ce dynamisme civique autogéré qui porte énormément la ville.
Je trouve ça trop bien, en fait.
Et Marseille Hospitalité, un des enjeux, c'est aussi d'essayer de fédérer tous les acteurs, parce qu'on se rend compte aussi, pour avoir le pied dans plein de structures différentes, que ce qui manque, justement, c'est de s'écouter. En fait, il y a des assos qui font un peu, en tout cas qui sont sur des périmètres très semblables, qui ne savent même pas qu'elles existent. Après, ça vient aussi du territoire qui est très vaste, mais pas que. Il y a aussi le manque de connexion, d'initiatives pour fédérer tout le monde.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives. Pour s'y retrouver, parfois, c'est compliqué, quel que soit le secteur d'activité.
Mais justement, on y vient. Donc, du coup, Marseille Hospitalité, est-ce que, comment toi, tu t'es engagée dans Marseille Hospitalité? Est-ce qu'il y a un moment? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché cet engagement? Comment ça s'est fait?
Faut savoir, avant de parler de Marseille Hospitalité, c'est qu'il y a l'Hôtel du Nord, donc oui, la coopérative d'habitants des quartiers nord de Marseille, dont je suis sociétaire. Alors, comment je suis rentré à l'Hôtel du Nord? En fait, dans la maison où j'habite à Saint-Antoine, nous, on vit au premier étage et on avait un rez-de-chaussée qu'à l'occasion, enfin, au moment où on a fait des travaux dans cette maison, on l'a réhabilité, on en a fait un petit appartement. Et donc, c'est venu de la, au bout d'un moment, est venue la question, bah, qu'est-ce qu'on en fait de... Et intuitivement, avec ma femme, on n'avait pas envie d'aller sur Airbnb. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, mine de rien. Les expériences qu'en ont eues nos amis qui l'ont fait ne sont pas forcément folles. Et puis, il y a le côté aussi très tourisme de masse. Et donc, intuitivement, on n'est pas allé vers ça. Et du coup, on s'est posé la question, bah, c'est quoi des alternatives pour proposer du logement chez l'habitant. Et c'est mes parents qui m'ont parlé de l'Hôtel du Nord, parce que dans mes voisins, il y a Agnès et Louis, donc ils sont des fabricants de miel, ils ont des ruches. Bon, ils ont arrêté il y a 2 ans, mais on avait des apiculteurs, et eux-mêmes sont sociétaires et proposent le gîte. Et donc ils m'ont dit, bah, va aller voir. Et donc moi, je suis allé les voir au départ en pensant que l'Hôtel du Nord, comme son nom l'indique, c'est pour loger. Et en fait, j'ai capté que c'était bien plus large que ça. Donc, ça n'a d'hôtel que le nom, parce qu'en fait, l'Hôtel du Nord, en tant que tel, ça n'a pas de lieu physique. Ils aiment bien dire, enfin, on aime bien dire que c'est un tiers-lieu diffus, puisqu'on est partout et nulle part à la fois. Et donc, l'Hôtel du Nord, c'est 80 sociétaires, principalement 15 et 16e arrondissement de Marseille. Et on a tous en commun la volonté un peu de redorer l'image de ce coin de Marseille à travers, par exemple, l'hospitalité, puisqu'on propose, on est 20 à proposer le gîte. Donc c'est comme ça, moi, que j'ai rejoint la coopérative. Mais les autres actions, on fait beaucoup de balades patrimoniales. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le bureau des guides, mais le bureau des guides est une création de l'Hôtel du Nord. C'est une émanation.
C'est passionnant ce qu'ils font, ce qu'ils déploient.
Et en fait, c'est vraiment les mêmes équipes. Donc les balades patrimoniales, il y a aussi tout un travail d'archives. On travaille beaucoup avec les archives municipales et avec la convention de Pharos. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, la convention de Pharos, c'est vraiment ce qui, en gros, l'Hôtel du Nord, il y a des objets qu'on adore. Il y a l'hospitalité, ça on va beaucoup en parler ce soir, et puis il y a aussi tout ce qui est archives et patrimoine. Et ça, c'est l'autre grand combat de l'Hôtel du Nord. Donc la Convention de Pharos, c'est le Conseil de l'Europe, je crois que c'était au début des années 2000, qui propose une charte pour que... Bon, je vais très mal l'expliquer, mais vous allez comprendre. C'est que, en gros, comment décider ce qui fait patrimoine ou pas dans notre pays? Donc généralement, on a en tête les châteaux, les statues, enfin voilà, tout le...
Patrimoine historique.
Patrimoine historique, donc très Stéphane Bern. La Convention de Pharos, elle propose plus une vision de partir du bas. Donc, c'est-à-dire, on peut se réunir tous les trois. Parce que, par exemple, on habite dans le même quartier et au bout de la rue, il y a une friche avec laquelle on a une relation particulière parce qu'on l'a toujours vue, parce qu'on l'a vue évoluer. On sait qu'avant, il y avait peut-être un grand-père qui y travaillait, etc. Et du coup, on a envie d'en faire patrimoine. Bah, la Convention de Pharos, c'est ça, c'est que tout le monde peut... a la possibilité de faire patrimoine. Et la ville de Marseille a signé la Convention de Pharos en juillet par Perrine Prigent. C'est elle qui a vraiment insisté pour que la ville signe. Et c'était une grande victoire pour l'Hôtel du Nord, parce que l'Hôtel du Nord, depuis sa création en 2011, elle milite pour que Marseille rejoigne la Convention de Pharos. Voilà, je referme.
Et donc c'est en lien avec l'autre volet que développe l'hôtel L'Hôtel du Nord.
Voilà, c'est en fait.
Et de quelle manière, pour que les auditeurs comprennent bien à l'antenne?
Très concrètement, par exemple, le collectif Noailles Debout, qui s'est créé à la suite des effondrements de la rue d'Aubagne, s'était rapproché de nous parce que il voulait faire entrer aux archives la mémoire de Noailles. Et ça a été possible grâce à l'Hôtel du Nord qui a fait, entre guillemets, le passe-plat entre le musée d'histoire de Marseille et le collectif Noailles Debout. Parce que nous, on a vraiment ce savoir-faire d'archiver des objets matériels ou immatériels. Et en fait, pour la petite histoire, l'objet qui a été archivé, c'est une chaîne. Donc un bout de chaîne, donc c'est un bout de métal. Vous le verrez comme là, vous vous direz bon bah ok, c'est un bout de métal, mais en fait c'est les habitants qui ont choisi cet objet parce que quand ils ont dû évacuer, on a dû fermer en catastrophe toutes les maisons pour éviter les squattages et les vols. Et ces chaînes, elles bougeaient tout le temps avec le vent. Et ça, voilà, ça a marqué tout ce quartier. Et du coup, c'est l'objet qu'ils ont voté en grande majorité et qui est aujourd'hui au Musée d'Histoire de Marseille et qui sera conservé ad vitam aeternam par la ville. Et on en est hyper fiers.
Bah oui, vous pouvez.
Oui.
Oui, donc pour revenir à la question, donc comment je suis arrivé à... Donc voilà, donc moi j'ai déjà rejoint ce joyeux, cette belle coopérative, donc c'était il y a 4 ans, en tant qu'hébergeur. Et là j'ai découvert qu'en fait il y avait plein de possibilités, et surtout ce qui est génial avec une coopérative, c'est qu'une personne égale une voix, enfin on est tous la coopérative, et c'est, y a vraiment une liberté hyper galvanisante. Et moi, vraiment, le morceau qui m'a intéressé, c'est l'hospitalité. Donc, c'est comment faire des quartiers nord un endroit comme les autres à Marseille, quelque part.
Qu'est-ce que tu y mets dans ce mot hospitalité? Comment tu le définirais?
L'hospitalité, c'est... alors ça, c'est...
Grande question.
on a fait une conférence, justement, sur le mot hospitalité au Musée d'Histoire de Marseille. Donc déjà, c'est un mot étymologiquement qui est très polysémique. Parce que l'hospitalité, c'est à la fois l'hôte, celui qui accueille. Et d'ailleurs, le mythe fondateur de Marseille, on a Gyptis qui tend à Protis un verre d'eau. Donc c'est un geste d'hospitalité qui est à l'origine de la création de Marseille. Donc voilà, il y a toute cette notion d'accueil, d'aller vers l'autre, de recevoir l'étranger. Mmh. Et en même temps, l'hostilité, c'est aussi la même racine. Mmh. Donc, par exemple, quand on s'est intéressé à l'hospitalité à Marseille d'un point de vue historique, il y a des périodes très inhospitalières à Marseille. Il ne faut pas non plus avoir une vision idéaliste. Et otage aussi, c'est la même racine, ou le fantôme, ghost. Donc voilà, c'est hyper intéressant de s'intéresser à l'étymologie du mot, parce qu'on peut voir qu'en fait, c'est un mot très nuancé. Et on peut lui faire dire plein de choses. En tout cas, nous, c'est un mot qu'on adore. Et on y met beaucoup de joie derrière.
Ça, c'est intéressant aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui a évidemment une définition commune et générale, mais que chaque territoire en France, en tout cas, l'incarne de manière très différente. Marseille, c'est vrai qu'historiquement, c'est une ville d'accueil, mais comme tu dis, elle a été inhospitalière aussi sur certaines périodes. Et aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, qu'elle veut... En tout cas, s'ancrer de cette manière. Il y a eu les élections municipales dernièrement. Je crois que les Marseillais et Marseillaises ont aussi fait comprendre au territoire national que c'est de cette manière qu'elle veut aussi avancer. Donc l'hospitalité, c'est vrai que c'est au cœur de beaucoup de projets. Tu parlais de dignité aussi en introduction. C'est aussi un mot qui va avec.
Oui. Alors, je ne suis pas le meilleur du collectif pour en parler, parce qu'on a, par exemple, Karine, qui est chercheuse en santé mentale. C'est elle qui a travaillé sur toute la partie un peu théorique avec l'accueil inconditionnel notamment. D'ailleurs, elle a pu m'inviter, je la remercie, c'était au début janvier, à un colloque à la Timone sur l'accueil inconditionnel en milieu hospitalier. Et c'était passionnant, donc je me suis retrouvé avec des médecins, des directrices de services d'urgence, et des gens sur le terrain aussi. Et c'est vrai qu'il y a des morceaux de la société où l'hospitalité, elle souffre énormément, et a commencé par le domaine de la santé, où vraiment, ils n'ont aucun moyen, ou très peu. Ils font un travail qui est vraiment plus que nécessaire, qui est vital, mais malgré tout, on ne leur donne pas les moyens d'avoir l'hospitalité qu'il faudrait avoir.
En fait, ça me fait penser, est-ce que tu connais, parce que j'ai travaillé entre autres avec Julie Demuet, qui elle fait des podcasts, justement, elle est dans la coopérative.
Ah, tout à fait, ouais, Julie, c'est une copine, elle fait partie de la coopérative, c'est une des... je vous ai dit qu'on était tous, une personne égale une voix, mais c'est vrai que Julie, elle a une voix qui porte.
Elle a une voix qui porte.
Et en effet, oui, c'est Julie, c'est une des figures... avec et du coup elle a aussi le bureau des guides. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec Julie, on évolue de manière un peu parallèle dans l'Hôtel du Nord, parce que moi c'est la partie hospitalité, elle c'est la partie balade.
Oui.
Même si là on a un projet en commun avec le centre social de Lamartine, où on a réussi à combiner un peu nos deux passions, et c'est un projet qu'on monte ensemble et qui est trop trop bien. Moi, je vous en parlerai peut-être pas aujourd'hui, mais
c'est quoi ta passion?
Moi c'est vraiment l'hospitalité, donc c'est de vraiment faire rencontrer les gens. Donc très rapidement, en gros là le projet qu'on a, donc c'est au pied de l'hôpital Nord, il y a un petit quartier qui s'appelle Palanque, c'est là où j'habite. Donc c'est un quartier plutôt résidentiel avec pas mal de petits vieux, très sympa. Et à côté de ça, il y a Lamartine, qui est une petite cité calme, tranquille, mais les deux ne se parlent pas, ne se connaissent pas. Mmh. Et donc en fait, on s'est rapproché. Enfin, non, c'est le centre social qui est venu nous chercher pour justement qu'on monte une balade patrimoniale. Donc l'idée, c'est que c'est trop. Enfin, genre plusieurs fois par mois, moi j'y vais au centre social. Je retrouve plein de petites dames et de monsieur que je fais balader dans le quartier. Et tout le monde partage ses anecdotes. Et en fait, on arrive à créer du lien. Parce que, qu'on soit de la cité de Lamartine ou du quartier de Palanque, en fait, on a le même environnement et on a les mêmes souvenirs. Et du coup, on arrive à se faire rencontrer les gens juste en leur montrant, je sais pas, une bosse, un dodane. Bah, tout le monde a des histoires parce que c'est en fait ce dodane, c'est pas vraiment un dodane, c'est le canal de Marseille qui a été recouvert parce que dans les années 80, il y a eu trop d'enfants qui se baignaient dedans, et donc ils ont voulu rendre ça safe. Et moi, par exemple, quand j'allais à la piscine qui est juste à côté avec l'école, le chauffeur de bus faisait exprès d'accélérer à fond. Donc tout le monde y allait de sa petite histoire. En fait, voilà, c'est vraiment...
C'est comme si les souvenirs issus du patrimoine créaient la rencontre.
Exactement.
Recréer la rencontre.
Et du coup, ça permet de mieux connaître son quartier aussi, parce que on apprend plein de choses, surtout à travers les anciens et les anciennes. Moi, j'ai une rue du Puy à côté de chez moi. Bah, je ne m'étais jamais... poser la question de pourquoi elle s'appelait rue du Puy. Bah, on a soulevé une plaque d'égout, bah, Julie d'ailleurs, et on a vu que oui, il y avait un ancien puits. Enfin voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais qui permettent de créer du lien, de la rencontre.
Et puis de recréer aussi de la profondeur pour l'âme d'une ville aussi, je trouve, avec les temps qui courent, où on survole beaucoup de choses, où ça va vite.
Alors nous, on est ultra slow, c'est-à-dire on va marcher une après-midi, mais vraiment à pas tranquille. On va beaucoup, beaucoup parler, et on apprend des choses. Je vais pas tout raconter ici, mais on apprend vraiment plein de choses. Mais en tout cas, si ça intéresse des auditeurs ou des auditrices, c'est le 28 mai. On fait une balade patrimoniale qui partira de la cité de Lamartine et qui ira jusqu'à Terre Nouvelle, qui est un tiers-lieu aussi derrière l'hôpital Nord. On va traverser l'hôpital Nord, on va passer dans des trous de grillage, et pour faire un gros pique-nique à la fin.
Et ça, c'est plein de promesses.
On l'a construit. Dit quoi, le 28 mai. Patrimonial, c'est noté.
Et pour s'y inscrire, si les auditeurs souhaitent venir, c'est de quelle manière?
Vous savez pas encore.
Franchement, faut venir. Ils vont au centre social de Lamartine le 28 mai.
Ok, ouais.
Je ne sais pas encore quelle heure. Je vous les transmettrai.
Et justement, parce que vous faites beaucoup de choses dans le collectif Marseille Hospitalité, est-ce que tu peux nous présenter peut-être un petit peu ce que vous faites, les différents volets?
C'est vrai que...
Parce qu'il y a les visites, mais il y a plein d'autres choses, il y a des conférences.
Merci de recentrer, parce que je suis en train de partir dans tous les sens.
Non, mais c'est très intéressant. Mais c'est vrai que...
Alors, Marseille Hospitalité, la particularité, c'est qu'il y a... pas mal de profils assez intello, chercheurs, donc des gens qui aiment bien notamment écrire, et j'en fais partie. Donc, c'est-à-dire qu'on a toute une partie enquête. Donc, si vous allez sur notre site, vous allez voir qu'on s'est intéressé aux touristes, que font les marins, par exemple, sur les bateaux quand ils accostent à Marseille. On s'est intéressé aux travailleurs sociaux, aux auberges de jeunesse, aux campings, aux gens du voyage, etc. Donc ça, c'est vraiment des enquêtes, et ces enquêtes, en fait, on peut y adosser les cartes qu'on fait aussi, parce qu'on on s'intéresse aussi
aux cartographies, enquêtes.
Par exemple les lieux d'hébergement d'urgence. On a plein de typologies comme ça.
Ouais, j'ai vu, il y a des jeunes travailleurs, les ateliers d'artistes, des résidences étudiantes. Mais du coup, est-ce que chaque personne se donne un domaine justement de... moi par exemple, je m'occupe des résidences étudiantes. Est-ce que vous répartissez, j'imagine, les secteurs?
Non, pas forcément. En fait, c'est plus au gré des réunions et des desiderata de chacun et surtout du temps disponible, parce qu'on est tous bénévoles. Hein.
Ouais, donc, c'est ça. Il faut le dire quand même. Ouais. Ça, c'est impressionnant votre site internet. Il est fourni, mais comme Jaja. Incroyable.
Ouais. Ça, c'est dédicace à Prosper, qui est la machine de guerre de notre collectif et qui produit énormément.
Gros big up, Prosper.
Ouais.
Et le travail de cartographie est un outil au service des Marseillais et aussi des personnes qui arrivent à Marseille. C'est vraiment pensé comme un outil utile.
Bah, c'est déjà faire état de... En fait, je pense que le plus simple, c'est de repartir de la base et de ce qui nous a sauté aux yeux au début et qui nous a dit, bon, faut créer Marseille Hospitalité et travailler sur cette notion-là. C'est qu'en fait, on a étudié... On a pris la photographie de la ville de Marseille, de ses habitants et de ses habitantes. On a vu qu'il y avait 70% de résidents. Donc, je pense que nous trois, on en fait partie. Donc, c'est des gens qui vivent plus de la moitié de l'année à Marseille. Il y a des touristes, c'est 15%. Et puis, il y a 15%, c'est des personnes dites de passage. Et ça, personne ne sait. C'est-à-dire que c'est un angle mort en sociologie, en études diverses et variées. On ne sait pas qui sont ces 15% de personnes qui passent dans les villes. Et on parle beaucoup de Marseille, mais c'est valable pour toute la France. Hein. Et du coup, nous, on s'est dit, on va attaquer cet angle mort. On va essayer de savoir c'est qui ces 15%. Comment on a fait? Donc, je vous l'ai dit, il y a des enquêtes. Pour mener ces enquêtes, on va utiliser certains outils comme Fluvision, qui est un outil de bornage téléphonique mis au point par Orange et qui permet en fait de savoir de manière anonyme. Nos téléphones, ils bornent tout le temps. Mmh. Mais on arrive à savoir la nationalité. Donc, on a pu voir, par exemple, qu'il y avait des dizaines de milliers de Philippins à Marseille. À votre avis, qui sont-ils? C'est des dizaines de milliers de Philippins qui passent chaque année à Marseille. C'est les marins sur les paquebots. Donc, en fait, tous les gros paquebots que vous voyez, croisières ou même les gros bateaux industriels, la main-d'œuvre qu'ils utilisent, entre guillemets, qu'ils font travailler, ce sont des Philippins.
Mais ceux qui vont en Corse ou dans le Maghreb?
Peut-être pas. Alors, je n'ai pas ce niveau de présence.
Bruno.
Et en moyenne, ces personnes de passage, elles restent combien de temps sur le territoire marseillais?
C'est hyper variable. Ça va vraiment dépendre. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait les Philippins, il y avait les Polonais et les Lituaniens. Eux, ce sont les...
Ah, en finesse.
Les routiers.
Ok.
Donc, y a beaucoup de routiers. On s'est aperçu aussi que... Alors, selon vous, quelle est la première... parmi les touristes étrangers, quelle est la première nationalité présente à Marseille?
C'est marrant parce que cette question me l'a posée pour Paris. Et figurez-vous que c'était les Portugais. Alors je ne sais pas, du coup, à Marseille.
Ce sont les Algériens et les Algériennes. Et voilà. On a ce travail vraiment, on va dire, statistique un peu froid. Et après, on a les visites croisées. Donc là, la prochaine, c'est chez Marthe, le 29 avril. Et là, on va mettre une grande thématique. Donc là, cette fois-ci, c'est les hospitalités religieuses. Et on va tous se retrouver dans un lieu pour que le lieu nous explique pourquoi il est là, etc. Mais aussi pour faire venir d'autres personnes. Moi, par exemple, je suis allé chercher le curé de Saint-Antoine, le père Jean-Baptiste. Et les sœurs, en fait, il y a aussi des sœurs italiennes qui vivent à Saint-Antoine. Elles sont trois à s'être installées dans la cité de la solidarité. Parce que dans leur... c'est leur volonté de vivre au milieu des habitants pour connaître leur quotidien et s'occuper d'eux, de prendre soin de la communauté. Mmh. Et donc, ils vont participer à cette visite croisée. Il y a aussi les visites croisées.
Donc des enquêtes, des visites croisées.
Ouais. Et après, en ce moment, on a une... pour revenir encore un petit peu en arrière, il y avait aussi la fresque des hospitalités marseillaises. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait toutes ces enquêtes, toutes ces visites croisées, on a réuni 100 personnes à la fabulerie. Il y avait à la fois des agents et des élus de la ville de Marseille et des membres du collectif ou des membres des structures qu'on avait visitées. Et ensemble, on a co-construit une fresque. Donc, ce sont des propositions dans laquelle on a réfléchi à comment améliorer l'accueil à Marseille autour de quatre thématiques. Donc, le premier accueil, donc c'est « Je suis néo-marseillais ou marseillaise, comment je dois être accueilli par la ville ?» L'accueil collectif, l'accueil social et l'accueil chez l'habitant. Et ça nous a permis de réfléchir à des propositions qui nous a amené jusqu'au carnet des hospitalités. Donc là, on est en décembre 2025.
Parce que vous l'avez présenté dans le cadre de la campagne des municipales.
On a donné une conférence de presse sur la 63e marche de l'escalier Saint-Charles. Parce que pour nous, alors déjà 63e, c'est parce qu'on avait 63 propositions à l'encontre des candidats et candidates à la mairie de Marseille sur le thème de l'hospitalité. Ce qu'il faut, si vous pouvez en retenir deux, c'est la création d'un observatoire des hospitalités, justement pour connaître qui sont les gens, d'être la première ville de France, à jamais les premiers, à savoir qui passe dans sa propre ville. Mmh. Et l'autre, c'est de récupérer 20% de la taxe de séjour. Alors la taxe de séjour, c'est les hôtels qui récupèrent cette taxe, qui font payer cette taxe et c'est reversé à 100% à l'Office du tourisme de Marseille. Et l'Office de tourisme, en tout cas...
Comment dire ? Je suis curieuse de la suite de la réponse.
Mais en tout cas, une politique plutôt, on va dire, classique de tourisme qui va réfléchir en termes de panier moyen. Donc, il faut faire venir des personnes fortunées. Ces personnes fortunées, elles viennent de loin. Elles viennent de Chine, des États-Unis principalement. Donc, ça veut dire que l'Office de tourisme va dépenser en campagne de pub dans le métro à Montréal, en Chine, etc., pour faire venir ces gens-là à Marseille. Et à côté de ça, par exemple, quelqu'un qui vient pour le travail à Marseille, il va payer la taxe de séjour alors qu'il n'est pas censé la payer. Donc tout ça pour dire qu'il y a des millions d'euros chaque année qui sont récupérés par l'Office de tourisme à 100%, dont de l'argent qui ne lui était pas destiné de base, pour financer une politique qui va plus vers le surtourisme, pour le dire clairement, que vers un tourisme conscient et durable. Et nous, ce qu'on propose, c'est de récupérer 20%, sachant qu'en 10 ans, elle a été multipliée par 7. Donc eux, ils ont pu, par exemple, multiplier par 2 leurs effectifs, mais tout en continuant une politique. Alors, oui, je précise aussi, Marseille Hospitalité, on n'est pas anti-touriste. Ça fait partie de la vie économique de la ville. Cela dit, il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'autres personnes de passage.
Et puis au détriment des Marseillais aussi.
Des Marseillais, oui, parce que les effets de bord, c'est qu'aujourd'hui, on n'a presque plus d'hôtels 1, 2, 3 étoiles. Les palaces et les 5 étoiles, il y en a plein qui ont poussé.
Des Airbnb.
Et les Airbnb. Et le fait de les avoir aussi régularisés, ça fait monter les prix. Donc en 2025, le prix d'une nuit à Marseille est de 120 euros, ce qui commence à piquer un petit peu. Oui. Notamment, on se met à la place des étudiants, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est très compliqué de se...
Oui, il y a une vraie politique sur qui on a envie d'avoir de passage en fait, dans sa ville aussi.
Exactement. Ben là, c'était un peu ce qu'on a expliqué aux candidats et candidates à la mairie de Marseille, c'est que là, on a un tournant. Est-ce qu'on continue dans la même direction ou est-ce qu'on est la première ville à proposer une vision hospitalière de l'accueil avec des dispositifs pensés pour toutes les personnes de passage, qu'elles soient touristes ou pas. Mmh. Et moi, mon gros sujet, c'est les personnes qui viennent à Marseille pour se faire soigner. Donc à Marseille, il y a 500 000 d'opérations par an dans les différents hôpitaux de la ville. Et ça attire des personnes vraiment de partout. Donc moi, je reçois beaucoup de Corses, par exemple, chez moi. Mmh. Et moi, il se trouve que j'habite à Saint-Antoine, où se trouve l'hôpital Nord, qui est un des plus grands hôpitaux de France. Parce qu'il y a un hôpital, une maternité, on peut y ajouter l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse qui est juste à côté, la fac de médecine, la prison, il y a une prison médicalisée, donc on rajoute aussi tous les services associés, tout ça pour dire qu'il y a des milliers de personnes chaque jour qui passent à l'hôpital Nord, mais pour autant toutes les infrastructures autour, que ce soit les transports, les routes, et surtout l'hébergement, ne sont pas du tout au niveau, parce que c'est un héritage, on va dire. Donc tout est sous-dimensionné, et donc l'Hôtel du Nord vient pallier à ça en proposant une série de gîtes autour de l'hôpital, en convention avec l'Hôpital Nord, pour accueillir les aidants. Donc moi, toute l'année, j'ai des aidants qui viennent parce que...
Les aidants, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas.
Les aidants, c'est les personnes qui s'occupent de personnes malades. Donc typiquement, l'été dernier, j'ai eu Pauline qui n'avait jamais quitté la Corse. Une personne retraitée, son mari a un gros souci de santé. Il a envoyé un avion sanitaire à Marseille. Du jour au lendemain, elle se retrouve à Saint-Antoine, sans solution de logement. Et là, c'est l'assistante sociale de l'hôpital Nord C'est pas toujours le cas. Mais là, cette fois-ci, qui nous a bien, enfin, qui lui a bien indiqué qu'on existait, qui m'a contacté. Là, on l'a prise en main, on l'a hébergé, on l'a chouchouté. Et voilà, l'idée, c'est que
oui, quelque chose de réconfortant aussi. Exactement. Dans l'hospitalité. Tu parlais de joie tout à l'heure. Il y a quelque chose de réconfortant.
Le soin.
Ouais, de prendre soin.
C'est ça, c'est l'écoute. Et parce que c'est des gens qui viennent pour des... Autant les touristes, ils viennent pour kiffer, clairement. Mmh. Autant bah, les aidants, ils traversent des moments pas rigolos du tout. Et tout le but, c'est qu'ils aient à s'occuper que de leurs proches et que tout le reste, donc l'hébergement notamment, ce ne soit pas un souci. Et au contraire, qu'ils soient au calme. Et après, on s'adapte. Hein. Il y en a qui adorent parler, qui ont besoin de vider leur sac. Donc, mmh. bah, moi, autant que je peux, j'essaie de discuter avec eux. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin d'être tranquilles chez eux et je les laisse tranquilles chez eux.
Et la plupart du temps, tu disais que tu les hébergeais 2 semaines jusqu'à 1 mois.
Ouais, parce que bah, souvent, à l'hôpital. Alors, déjà, il faut savoir qu'à Marseille, on a vraiment des stars mondiales de la médecine. Moi, je ne savais pas. et que donc, là, bah, cette semaine, moi, j'avais un Italien qui vient parce que sa femme a une maladie génétique depuis toute petite. Et depuis les années 90, elle vient suivre un traitement à l'hôpital Nord parce que c'est le seul endroit où elle peut suivre ce traitement. Cet été, j'ai eu une personne qui avait... On lui a trouvé une tumeur au niveau du nerf auditif. Le seul médecin en France qui s'est soigné ça sans couper le nerf auditif, donc sans rendre une oreille sourde. Il est à Marseille. Je voulais faire une blague sur si on s'écoutait, mais bref.
Il faut qu'il forme d'autres gens, du coup. Vite, ouais. Vite, vite.
Et bref, du coup, encore une fois, j'ai beaucoup digressé.
Mais c'est très bien aussi.
Et donc, on parlait de qu'est-ce que fait Marseille Hospitalité.
Donc, on en était... Non, mais c'était... Voilà. Oui, vas-y.
J'en étais à cette fameuse conférence de presse sur la 63e marche.
Oui, oui.
Et donc, pourquoi on a choisi ce lieu, les marches de la gare Saint-Charles ? Parce que ça représente vraiment l'hospitalité marseillaise. C'est le premier, la première porte d'entrée dans Marseille. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est monstrueux. Donc, beaucoup de gens découvrent Marseille via cet escalier grandiose. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de personnes droguées hein, qui vivent sous l'escalier. Vous avez peut-être regardé. Est-ce que vous avez fait attention au statut de... Donc, non, ça, c'est un héritage colonial avec. Vous regarderez, voilà, on est vraiment dans les clichés de la colonie. Avec toutes les caricatures qui vont avec sur la femme africaine, la femme asiatique, etc. Et puis, il est tout cassé. Ce pauvre escalier, là, il mériterait un peu du soin aussi. Donc, on trouvait que c'était hyper pertinent de le faire là. Et on était contents parce qu'on a quand même eu la Provence, Made in Marseille, Mars Actu et ici Provence. Qui sont
oui, venus, ça a été
alors
recouvert.
Alors que c'était 8h30, il faisait super froid, il faisait moins 4.
Oui, j'ai vu qu'il y avait Mistral et tout.
Mistral, c'était l'enfer sur Terre, mais on était contents parce que... Bah, on avait
vous aviez l'air, en tout cas, sur le photo. Ouais. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un escalier qui est à l'image aussi de Marseille. Il y a beaucoup de public varié,
ah oui, et puis
issu de vraiment de plein d'endroits.
Ah, c'est fascinant de s'asseoir sur cet escalier, et juste d'observer et d'écouter aussi. Donc, en effet.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce que vous développez, en tout cas dans le collectif, permet de changer la manière des personnes que vous accueillez, mais ça permet aussi de changer aussi la manière dont les habitants vivent Marseille. Et toi, c'est ce que tu vis aussi en étant, en hébergeant aussi des personnes chez toi, de ce que tu nous disais aussi. C'est que tu incarnes aussi ça toi-même, avec ta famille, le fait d'être hospitalier.
Oui. C'est vrai que parfois, je peux avoir des questions. Mais votre gîte, je vois qu'il est dans les quartiers nord. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse attention là. Moi, je leur dis, je touche du bois, mais moi, perso, il ne m'est jamais rien arrivé. Il n'est jamais rien arrivé à aucun de mes passagers. Donc les passagers, oui, c'est le mot qu'on utilise pour dire des personnes qui viennent, qui sont de passage chez nous, à l'hôtel du Nord, on dit passagers. Et donc moi, j'adore les faire venir chez moi parce que tout de suite, ils changent de discours. Ils sont hyper surpris de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, à Marseille, il y a énormément de nature. En l'occurrence, chez moi, j'ai un grand jardin, donc pour le coup, on est dans la nature et c'est vraiment l'explosion... De nature. Moi, je m'amuse toujours à leur poser la question à la fin du séjour. Alors, est-ce que vous recommanderiez à vos amis de séjourner dans les quartiers nord ? Et c'est toujours oui. Parce que malheureusement, on est victime aussi d'un traitement médiatique très injuste. Et ça fait partie des choses pour lesquelles on essaie de se battre. Mais bon, c'est compliqué quand même.
Mais j'ai tellement de questions et l'heure passe. Mais du coup, est-ce que, ouais, est-ce que l'hospitalité, du coup, est aujourd'hui un acte politique ? Enfin, il y a quand même, tu vois, ça aussi derrière de se dire, bah voilà, j'attends rien en fait en retour à part juste un hébergement citoyen.
Ça serait triste de dire ça parce que ça voudrait dire qu'en fait l'hospitalité elle est plus spontanée. Et que du coup, ça voudrait dire que l'hospitalité, c'est quelque chose quelque part où il faut faire un effort, il faut travailler pour y arriver. Alors que ce que j'en ai comme image, c'est que c'est quelque chose qui est naturel et qui vient de soi.
C'est aussi peut-être.
Mais en tout cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'à l'échelle politique, oui, on veut en faire un vrai sujet, on veut que les politiques s'en emparent.
Oui, parce que si c'est uniquement des actes citoyens, l'État donc se déresponsabilise aussi.
Et puis nous on est tous bénévoles. Au bout d'un moment, on va pas. Il y aura pas là de continuité de service. Mais la bonne nouvelle, on va voir ce qui va se passer. Hein, mais c'est qu'on a reçu une lettre de Monsieur Payan pendant la campagne, nous disant. Alors elle était assez longue. Hein. Donc on sentait vraiment que, je sais pas si c'est lui ou ses équipes, que vraiment ils avaient tout lu de notre travail.
Il y a un vrai intérêt.
Et ils s'étaient engagés sur certains points, notamment je sais plus si c'est l'Observatoire des Hospitalités ou l'École des Hôtes. Donc l'École des Hôtes, l'idée c'est de former les gens qui veulent faire de l'accueil à l'hospitalité, parce que moi par exemple, j'ai certains de mes passagers qui n'ont pas survécu à leur opération. Et ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément préparé et qui sont difficiles à vivre. Donc voilà, c'est important aussi de préparer les gens. Nous, on aimerait aussi développer le camping chez l'habitant. Donc ça ne s'improvise pas. Mais parce qu'il n'y a plus de camping municipal à Marseille.
Et dans l'idée, ça serait...
Que toute personne disposant d'un jardin sous certaines conditions puisse faire de l'accueil chez l'habitant en proposant aux personnes de mettre une tente dans le jardin. On s'inspire un peu du Warm Shower, je ne sais pas si vous connaissez, pour les cyclistes. Non. En gros, le réseau Warm Shower, il permet à des cyclistes de se rendre dans des adresses indiquées pour prendre une douche. Donc c'est juste une douche. Et donc voilà, la règle, c'est juste de disposer d'une douche. Il y a aussi ça pour ceux qui font des voyages en van. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire d'ailleurs, donc de proposer à des vannes de se garer chez l'habitant pour ensuite pouvoir être dans un endroit sécurisé et puis utiliser des commodités.
Hyper intéressant. C'est quand même assez innovant et
original. J'ai mille questions.
Il est 53, on lâche l'antenne dans 7 minutes, peut-être même un peu moins. Sidi, nous reste combien de temps en régie?
4 minutes. Ouh là là.
Et en plus, on a le son de notre invité.
Non, mais ça, je te dis, on peut le mettre un peu plus tard. Mais alors, bon, Rapidos, comment ça se passe une mise en relation, justement, entre une personne accueillie et une personne qui héberge ?
Alors, nous, on a un site qui s'appelle Les Oiseaux de Passage.
D'accord.
C'est un peu l'anti-Airbnb et c'est un site qui recense toutes les personnes qui proposent le gîte. Et c'est pas que l'Hôtel du Nord.
D'accord.
C'est. Ça va. Moi, par exemple, quand j'ai voyagé dans la vallée de la Roya, je suis passé par les oiseaux de passage.
Et c'est cartographié, les personnes qui souhaitent venir à Marseille peuvent choisir un petit peu, peut-être.
Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de proposer une expérience différente d'Airbnb. Donc, il n'y a pas de notes. En revanche, on a beaucoup de sons, des archives. Donc, moi, par exemple, pour mon gîte, vous pouvez écouter la première fois que j'ai fait visiter.
C'est un vocabulaire, c'est clair.
La première fois que j'ai fait visiter mon gîte à l'Hôtel du Nord, on a enregistré la réaction des gens. Et donc, moi, si vous allez sur la fiche de mon gîte, il y a ça. Il y a aussi des témoignages, on appelle ça des récits d'hospitalité. Donc, il y en a un que je vous invite vraiment à écouter, c'est Christian.
Qui a... On aurait dû mettre à l'antenne.
Christian qui est québécois et qui fait de la formation la non-violence à l'Hôpital Nord. C'est toute une histoire parce que lui, en gros, il s'est retrouvé chez moi parce qu'il allait tout le temps à l'hôtel campagne. Je ne ferai pas l'accent québécois parce que c'est pas le lieu. Mais en tout cas, il m'expliquait que lui, il allait toujours à l'hôtel campagne, qui est le seul hôtel des quartiers nord, mais où c'est 100 euros la nuit. Et il me disait que là, ils avaient passé les prêts à 300 euros parce qu'il y avait le pape à Marseille. Et du coup, il a cherché. Parce qu'on n'est pas très bien référencé, l'hôtel. Il faut quand même nous chercher pour nous trouver. Et donc, il a fini par me trouver. Au début, il ne me croyait pas que j'avais un gîte. Parce que moi, je n'avais même pas pensé à augmenter mes prix. Enfin, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Et du coup, il a débarqué chez moi avec une cagette entière de fruits et de légumes de son jardin. Et c'est devenu un pote. Christian, je t'embrasse, Christian, si tu m'écoutes. Mais depuis, voilà, il vient tout le temps chez moi avec son chien Pin-Up. Et voilà, celui-là il est vraiment très drôle. Après, il y en a des moins drôles. Donc voilà.
Oui, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de récits. Donc en tout cas, c'est dans des enquêtes avec des cartographies qui ont été initiées, des visites croisées, des fresques, la fresque de l'hospitalité, où là, ça a donné lieu à des propositions pour comment améliorer cette hospitalité, former aussi les personnes qui veulent accueillir aussi du monde chez soi, et puis les oiseaux de passage qui permet aussi de trouver ces lieux pour être hébergé.
Et en tout cas, donc la fameuse fresque a permis de créer le carnet des hospitalités dont je vous parlais. Et on s'est dit, comme on avait peur de s'ennuyer, en 2026, on s'est dit, et si on organisait 2 soirées par mois à la ruche? Et donc, on a créé un cycle de programmation. Donc, je remercie Justine Bonne de La Ruche qui nous a permis ça. Et donc, on a 2 soirées par mois sur l'hospitalité. Donc, on a fait la première, on a expliqué un peu tout notre travail. Donc, ce que je viens de faire, mais beaucoup plus...
succinct.
Non. Le deuxième, c'était l'accueil chez l'habitant. Donc, au-delà d'Airbnb. Le troisième, c'était Marseille ville à vendre ou ville à vivre. C'était sur les enjeux de l'urbanisme et de l'hospitalité à Marseille. Ça, c'était génial. C'était lundi dernier avec 3 urbanistes marseillais et libre nageur Randelladic. Si vous les connaissez, pareil, ils sont incroyables. Lundi, c'était les invisibles de l'hospitalité. Donc, on a fait parler les femmes de ménage, les gens en cuisine. Donc, en fait, tous ceux qui sont nécessaires à l'hospitalité, mais qui sont hors radar. Et la prochaine, ça sera l'hospitalité à travers l'alimentation.
Et tout ça, il faut dire que c'est bénévole. Il faut quand même se rendre compte de tout ce travail titanesque et cet investissement. C'est assez incroyable, enfin impressionnant.
Merci.
Ouais, franchement grave. Merci.
Et donc la date dont tu viens de parler sur l'alimentation, c'est
la prochaine. Faut aller sur le site Marseille Hospitalité.
Déjà, tu nous as dit, bon, le 28 mai, c'est pas de suite, mais il y a la balade patrimoniale. Ouais. Donc ça, on pourra y participer aussi pour ceux qui sont présents à Marseille et ceux qui sont dispo. Et puis oui, en effet, sur votre site internet, il y a de quoi s'enrichir de plein de dates.
Pour les enquêtes aussi.
Ouais, c'est hyper intéressant.
Et votre Instagram aussi?
Alors Instagram, c'est moi qui suis derrière, mais en ce moment, j'ai absolument pas le
temps
de
le mettre à jour. Il n'est pas
aussi dense. Et donc, si, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Faudrait que... En plus, c'est frustrant parce qu'on a on a plein de bénévoles, dont des personnes qui font de la facilitation graphique. Donc, j'ai des dessins de ouf. Là, dans mon ordi, mais j'ai jamais pris le temps. Enfin,
on va les partager à un moment donné.
Et si on veut intégrer donc Marseille Hospitalité.
Ouais, mais franchement, c'est ouvert à tout le monde. Vraiment, on n'est pas du tout sectaire. Au contraire, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, nous, on veut vraiment représenter la ville. Et si on veut vraiment représenter la ville, il faut qu'on ait le plus possible de personnes qui représentent la ville. Et ce qui nous, voilà, nous là, on est moins fort, on va dire. Il y a tous les étudiants, même si ça commence à se rééquilibrer, on manque un peu côté jeunesse et les acteurs économiques. Voilà.
Ok. Bon, on y vient. Ce soir, on a parlé d'accueil, de rencontres, de parcours et évidemment d'écoute. De cette écoute qui permet de voir l'autre autrement, de faire une place, de créer du lien là où il n'existait pas encore. Merci à Marseille Hospitalité, merci à toi Bruno, évidemment, pour votre engagement, pour la manière dont vous vous réinventez. Et vous réinventez aussi la ville. Et de et de ce que ça veut dire accueillir. Prenez soin des espaces que vous ouvrez, des histoires que vous croisez et des voix qu'on entend trop peu. Et il y a une question que j'aime bien là, que j'ai envie de aussi poser à vous auditeurs auditrices. Et si être une ville hospitalière, ça commençait simplement par apprendre à mieux écouter celles et ceux qui arrivent?
Oh, wow.
Merci.
Pour clôturer aussi cette émission ce soir, Bruno, est-ce que tu peux nous présenter ton choix de musique?
En fait, comme on est Marseille Hospitalité et qu'on est dans la joie, c'était assez évident. Donc, je suis allé piocher du côté de Massia Sound System, la chanson Rendez-vous à Marseille, où justement, en fait, ils ironisent vachement sur la compétition Paris-Marseille. Mais c'est un hymne à l'invitation à Marseille, à y flâner. Et puis voilà, comme c'est un groupe que je porte dans mon cœur, qui m'accompagne partout. Notamment quand ça va moins aussi. C'est, alors, un conseil, hein, si vous n'êtes pas bien, vous mettez un petit masque à ton système et tout de suite, ça va mieux. Donc voilà, c'était évident que ça allait être cette chanson.
Retrouver le regain.
En tout cas, merci pour l'invitation. C'est vraiment cool d'avoir
c'était
cette...
C'était si riche. Oui. Franchement, j'aurais passionnant. plein de d'autres questions encore. Mais merci pour tout. Et si jamais il y a d'autres infos, en effet, votre site internet, Instagram et puis les conférences que vous menerez bientôt.
Tout à fait.
Merci beaucoup Bruno, on vous souhaite une très belle soirée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.
C'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. À Paris, j'ai vu au moins 50 canadiens.
Partout, tout le monde dit que la plus belle ville du monde est sans doute Paris. Ça ne me vexe pas, au contraire je ris. J'instaure le débat et je vais être précis. Y'a pas d'enfer, y'a pas de paradis. Moi j'aime ma cité et c'est pourquoi j'y vis. Dans la compétition au titre par catégorie, si Paris est la plus belle, Marseille est la plus jolie, yeah. La Canebière, le Vieux-Port et Notre-Dame de la Garde. Les réformés, le cours Julien, la Plaine et la gare Saint-Charles. La rue Loubon, Palais Longchamp, 5 avenue, boulevard Chaves. Rue de Lyon, la place d'Aix, le cours Lyoto et Castellane.
C'est un rendez-vous à Marseille, là sur le quai. Voyage au pays des merveilles, ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous, avec la cité qui vous rendra fou.
Bleu et bleu, bleu et blanc, soleil coulant, le ciel est grand, ok calot, rire d'enfant, la nuit est l'audio, Bruno son, libérez amour.
Est-ce ma cité, ma donne, ma capitale? Es ma nación, ma dulce, ma general. Es mi nido, mi mater, mi recadí. Oh, mi bel jardín, dei delici, dei delici.
Spéciale dédicace à tous les amuseurs, à ceux qui font danser les Marseillais. À tous les ragamuffins, les rockers, les rappeurs, et à tous ceux que j'allais oublier. J'écris une épitaphe, encore deux ou trois taffes. J'enterre la tristesse et le stress. Je profite du rythme, j'assure l'intérim. J'évacue la pression, je me redresse. Fais bouger tes pieds, tes genoux, tes hanches et puis tes épaules. Plus on rit, plus il y a de fous. Plus on est fou, plus on rigole. Il faut chanter avec passion, organiser des farandoles. Écoute, fais bien attention, mais apprends vite les paroles.
C'est un rendez-vous à Marseille, là sur le quai. Voyage au pays des merveilles, ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous, avec la cité qui vous rendra fou.
Vai avant, valim un pitxó, siamo bulegant, dins lo cantó, rugge sang, soleil potó, toujours de flama, soleil cançó.
És ma ciutat, ma dona, ma capital.
es más nacido, más dulce, más general. Es muy lindo, muy materno, muy recalí. Oh, muy bien, ya es lindo y delicioso. Y delicioso. Rendez-vous à Marseille, là sur le quai.